en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Étienne Gis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour un nouvel habit vert qui vous est consacré. Vous êtes donc académicien des sciences dans la section des mathématiques depuis novembre 2004 et puis correspondant de l'académie depuis 1994. Et donc, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, vous êtes mathématicien. Alors, comme beaucoup de vos confrères académiciens aux sciences, vous n'êtes pas à la retraite, vous êtes toujours en activité et vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de mathématiques pures et appliquées de l'École normale supérieure de Lyon. Vous venez donc spécialement de Lyon pour nous voir peut-être.
Voilà.
C'est très gentil de votre part. Avec vous, nous allons pouvoir évoquer vos travaux, bien sûr, et puis nous allons parler aussi peut-être de vos voyages que vous avez pu faire à Rio de Janeiro ou à New York. Alors tout simplement, Étienne Gis, pourriez-vous nous dire en quoi consistent vos travaux
CNRS ? C'est une question difficile puisque je suis mathématicien et que les mathématiques sont très souvent difficiles à communiquer.
Faites-nous un petit cours pratique.
Voilà, je vais essayer. Mes travaux, le mot clé, c'est système dynamique et géométrie.
Ah,
alors, je vais essayer de préciser un peu ça.
Dites-nous tout.
Alors, géométrie, ça évoque pour vous, j'imagine, la géométrie qu'on apprend à l'école, les triangles, les carrés, etc. Mais bien sûr, c'est une discipline qui s'est très largement développée tout au cours de l'histoire des mathématiques et qui, aujourd'hui, est, à mon sens, l'une des parties centrales des mathématiques. Et les systèmes dynamiques, d'autre part, c'est tout ce qui traite du mouvement. Alors, l'origine, pour le coup, c'est... Disons la physique, la mécanique, le mouvement des planètes, le mouvement des particules ou des choses comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas la physique, mais ce qui m'intéresse, c'est l'aspect géométrique contenu dans les systèmes, dans la dynamique.
En fait, ce qui va vous intéresser, c'est calculer la courbe d'un mouvement particulier,
voilà.
Par exemple.
Sauf que j'aimerais pas employer le mot calculer parce que je suis très mauvais calculateur, je suis très mauvais pour tous les calculs de toutes sortes.
Pour un mathématicien, est-ce que c'est une
bonne
chose ?
Non, justement, j'aime beaucoup ce qui est qualitatif. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de calculer la trajectoire d'une planète, qui est une chose très difficile à faire et que seuls les ordinateurs peuvent peut-être faire un peu, ce qui m'intéresse plus, c'est d'essayer de comprendre qualitativement. Par exemple, vous avez une planète qui se promène dans l'espace et on peut se poser la question, est-ce qu'elle va rester toujours à proximité du Soleil ou est-ce qu'elle va être éjectée à l'infini ou est-ce qu'elle va revenir près de l'endroit dont elle est partie ou des choses comme ça. Donc au lieu de calculer, je préfère le mot décrire.
Décrire, apporter une réponse mathématique.
Une réponse qualitative mathématique.
Qualitative
voilà,
mathématique.
Voilà.
Vous travaillez donc au laboratoire de mathématiques pures et appliquées. Alors,
voilà.
Pures et appliquées, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre mathématiques pures et mathématiques appliquées ?
Alors, c'est un grand débat puisque les mathématiques sont une très vieille science qui a eu beaucoup de versions différentes et qui s'est développée à partir de la physique, à partir de beaucoup d'autres disciplines et qui aujourd'hui, ou tout au moins il y a... disons une cinquantaine d'années, a commencé à se séparer en plusieurs sous-disciplines, au tel point qu'on a cru à un moment qu'il y aurait un risque de scission entre des mathématiciens purs, qui ne s'intéressent qu'aux mathématiques en elles-mêmes, et
les
mathématiciens,
chiffres pour les chiffres.
Les chiffres ou les formes pour elles-mêmes, et les mathématiciens appliqués qui s'intéressent, eux, à résoudre des problèmes concrets, c'est-à-dire applicables extrêmement rapidement, soit dans l'industrie, soit dans l'économie, soit peu importe. Et on s'est rendu compte assez rapidement que, en fait, les deux étaient très complémentaires et que cette terminologie appliquée, pure, etc., était une terminologie qui était un peu dangereuse. Même si la plupart des mathématiciens se rangent plutôt dans un camp ou plutôt dans l'autre, c'est plutôt un continuum. Certains sont plutôt intéressés par les applications, d'autres sont plutôt intéressés par les mathématiques pures. Mais il est important pour nous de rester solidaires et de rester une seule science.
Donc vous, hein, en l'occurrence, dans votre laboratoire, vous travaillez sur les deux parties ?
Non, non, non. Je crois que mes collègues trouveraient très drôle si on disait que j'étais mathématicien appliqué. Non, je suis un mathématicien pur.
Voilà, mais vous avez donc une équipe qui travaille sur les deux parties ?
Je travaille dans une école normale supérieure. Donc cette école normale supérieure a des étudiants. Elle a une fonction pédagogique de formation d'étudiants qui arrivent au niveau Bac plus 2 et qui en sortent au niveau Master. Et par ailleurs, au sein de cette école, il y a un laboratoire de recherche dans lequel il y a une quarantaine de chercheurs de tous âges qui font de la recherche indépendamment donc de ou en concomitance avec l'enseignement. Donc, dans ces chercheurs, parmi ces chercheurs, il y a des mathématiciens plus purs et des mathématiciens plus appliqués.
Alors maintenant, nous allons peut-être revenir un peu en arrière pour savoir comment vous êtes venu à travailler dans ce laboratoire de recherche. Vous avez donc passé une thèse, je suppose. Et puis, après votre thèse, vous êtes parti un petit peu en vadrouille, on va dire. Alors, par quel pays vous avez commencé ?
Par le Brésil, parce que c'était l'époque où les jeunes garçons devaient faire le service militaire.
C'est qui était donc votre cas ?
Voilà, qui n'était pas une chose qui m'amusait beaucoup. Et donc, j'ai préféré faire le service coopération, comme on disait à l'époque. Et on m'a proposé de partir au Brésil pour faire une année et demie de coopération au Brésil. Et j'ai eu la chance de tomber dans un institut de mathématiques absolument merveilleux.
Et c'est votre directeur de thèse qui vous a soumis de partir
il se trouve que mon directeur de thèse avait lui-même passé quelque temps dans cet institut au préalable. Il m'a suggéré, il m'a recommandé auprès des collègues brésiliens. Et donc, le petit Étienne a pris l'avion pour Rio et il y est resté quelques années.
Alors voilà, une fois sur place, comment ça s'est passé?
Une fois sur place, j'ai découvert un autre pays, bien sûr. Comme je venais de Lille, mes charmants amis brésiliens m'expliquaient toujours que c'est la première fois que je voyais le soleil. Et puis,
donc au départ, vous devez rester un an et demi. Vous y restez trois ans, finalement.
Oui, deux ans
donc,
au départ.
Donc vous êtes bien intégré.
Voilà, c'est ça. J'ai adoré. J'ai adoré à tout point de vue. Mais je suis ici surtout pour parler de mathématiques. J'ai essentiellement adoré les mathématiques aussi.
Donc vous arrivez là-bas et on vous confie une classe, des étudiants, vous parlez pas un mot portugais, vous devez faire un cours en portugais sur un sujet que vous ne connaissez pas en plus.
Voilà, c'est là j'étais très jeune
disons
à l'époque.
Disons que bien vous rentrez dans le vif du sujet.
Donc, j'étais très jeune à l'époque et on m'a donc demandé d'enseigner un cours que je maîtrisais mal, dans une langue que je ne maîtrisais pas, devant un petit groupe d'étudiants. Il y avait cinq étudiants dans mon groupe, je me souviens très bien. Je les connais encore très bien aujourd'hui et on a gardé très bons rapports. Ça a été un grand plaisir pour moi.
Mais ils ont été rudes avec vous quand même dans ce laboratoire.
Non, ils ont été très gentils. Ils ont été très gentils parce que les Brésiliens sont charmants. Par exemple, d'un point de vue linguistique, il n'y a vraiment aucun problème. Ils sont très gentils. Dès qu'on fait l'effort d'essayer de parler un peu portugais, ils pardonnent toutes les fautes de grammaire.
Mais entre parler portugais et donner un cours de maths en portugais, il y a quand même une différence, est-il dit,
c'est
ça.
Encore plus facile en
maths. C'est encore plus facile.
Oui. C'est comme l'anglais, par exemple. Bon, moi qui parle un anglais de travail, pour moi, faire un exposé de maths en anglais, c'est une chose qui ne pose aucune difficulté. Par contre, je ne vous cacherai pas que si je vais au cinéma, en anglais, des fois, ce n'est pas complètement évident pour moi. Donc l'anglais oral, mathématique, ou le portugais, sont des choses qui sont assez faciles à pratiquer.
Et là-bas, une fois sur place, est-ce que la manière d'enseigner les maths sont la même qu'en France ?
Non, c'est très différent. Ce n'est pas seulement la manière d'enseigner les maths, c'est la manière de faire des maths, de pratiquer les maths. Il se trouve que cet institut de mathématiques à Rio est un institut qui contient des chercheurs essentiellement formés aux États-Unis et qui sont revenus au Brésil pour développer une thématique qui est la thématique justement des systèmes dynamiques dont je vous parlais. Et moi, en arrivant là-bas, j'ai découvert qu'on pouvait faire des maths de manière qualitative, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, on n'était pas obligé toujours de calculer. Et pour moi, ça a été une découverte de voir qu'on pouvait avoir une approche des maths très différente de l'approche française dans laquelle les choses sont toujours strictes, précises, calculées.
Voilà, donc vous disiez la différence entre un enseignement strict, un peu austère en France, et puis un enseignement, on va dire, plutôt exotique côté Brésil.
Attention, je ne parle pas d'enseignement là. Je parle de la pratique de recherche.
La pratique.
La façon dont les collègues transmettent leurs recherches et dans la manière dont ils la font. Hein, j'insiste sur ce mot. Les maths, c'est des choses qu'on fait. Ils sont presque de l'artisanat.
Mais alors, qu'est-ce que vous appelez une pratique exotique au Brésil ?
Tropicale. Non, c'est une pratique qui est différente dans le sens où, lorsqu'on fabrique les mathématiques, on est beaucoup plus ouvert à des choses souples, si j'ose dire. C'est très difficile à expliquer quand on n'est pas mathématicien. On n'a pas honte d'avancer sans avoir trop de précision. On verra plus tard. Autrement dit, on fabrique sa recherche et on voit après pour la mettre au propre, en quelque sorte. Alors qu'en France, tout au moins dans les mathématiques françaises traditionnelles, la tradition est de ne pas sortir des rails, en quelque sorte.
Au bout de trois ans, vous décidez de partir, finalement, alors que vous étiez bien installé.
Oui, mais il faut dire que le Brésil est un pays un peu compliqué. Hein, je l'aime beaucoup, mais c'est un pays instable. C'était l'époque où il y avait une inflation incroyable. À l'époque, il y avait, si je me souviens bien, 40% d'inflation par mois. Donc la vie n'était pas toujours facile. Et puis, j'avais envie de rentrer à la maison, tout simplement.
Donc vous revenez en France.
Oui.
Vous recommencez un peu à enseigner en France ? Qu'est-ce qui
non,
se passe
à l'époque, j'étais déjà au CNRS, donc je retourne en France comme chargé de recherche au CNRS. Je retourne à Lille, mais je n'y reste pas longtemps puisque
là, vous faites une
j'ai
rencontre.
L'occasion de rencontrer un mathématicien qui s'appelle Dennis Sullivan, qui était professeur à l'IHES à Bure-sur-Yvette.
Professeur américain.
Professeur américain. Et ce monsieur m'impressionne beaucoup. Il me propose de partir à New York.
Vous le connaissiez déjà avant de le rencontrer?
Évidemment,
c'était un grand nom.
Évidemment, c'est quelqu'un
donc,
qui est déjà...
Donc, le côté impressionnant.
Pour dire la vérité, c'est même, il était même mon parrain. C'est un concept assez intéressant au CNRS, qui existe encore aujourd'hui. Quand un jeune CNRS est nommé débutant, le CNRS nomme en même temps un parrain. C'est une personnalité qui est censée l'aider s'il y a des petits problèmes, un peu comme un parrain. Quoi.
Donc vous l'aviez nommé?
Et, non, c'est pas moi, c'est le CNRS qui l'avait nommé pour moi.
D'accord.
Mais je ne l'avais jamais rencontré. C'était mon parrain.
C'était le moment.
J'ai rencontré donc Dennis Sullivan, qui était mon parrain. Donc lui, il repartait travailler à New York, et donc je l'ai suivi. Et pendant une année à New York, j'ai eu l'occasion là, de voir un grand mathématicien au travail, quasiment tous les jours. Et pour moi, ça a été une formation fantastique.
Alors, on marque une courte pause, Étienne Gis, si on se retrouve tout de suite après pour évoquer cette année à New York.
Parfait.
À tout de suite.
Un événement.
Une association.
Une œuvre.
Une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire,
en direct ou en médiathèque,
sur Canal Academy.
Retour à notre émission en habit vert en compagnie d'Étienne Gis, académicien des sciences et mathématicien. Étienne Gis, nous venons donc d'atterrir à New York.
Voilà.
Vous venez donc de suivre votre parrain, Dennis Sullivan, c'est ça?
Voilà.
Et donc, où est-ce que vous arrivez? Parce que New York, c'est grand.
Ah, c'était pas facile. Donc, j'arrive à l'université de New York, dans laquelle Dennis Sullivan travaillait. Et je suis affecté dans un collège de l'Université de New York qui se situe à Queens, dans Queens College. Même histoire, on me demande d'enseigner en anglais cette fois-ci, et là les étudiants américains sont un peu moins cool, on n'a qu'à dire,
voilà.
Pour les problèmes linguistiques.
Effectivement, l'anglais est une langue internationale.
Exactement.
Qui ne connaît pas l'anglais.
Exactement.
Donc pour pouvoir faire un cours,
voilà.
Il est évident que vous êtes bilingue.
C'est ça. Là, j'enseigne l'analyse numérique.
Donc pareil, quelque chose que vous ne
connaissez
pas.
Qui est quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout, que je ne maîtrise toujours pas très bien, parce que c'est totalement orthogonal à ce que je pratique d'habitude.
Alors votre parrain ne vous fait pas un cadeau, là, pour
le coup ? Non, il avait fait le cadeau de m'obliger à enseigner quelque chose que je ne connaissais pas. C'est une forme de cadeau. Et je ne le regrette pas. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis, par ailleurs, je travaillais la recherche, pour le coup, avec Sullivan. Et comme Sullivan était un très grand mathématicien, il avait dans son séminaire hebdomadaire des invités chaque semaine différents. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. J'ai rencontré mes héros, je les ai rencontrés à cette époque-là. Donc ça a été une révélation pour moi de voir des grands mathématiciens à l'œuvre.
Et à New York, vous vous y plaisiez? Parce qu'au bout d'un an, vous êtes rentré.
Au bout d'un an, en retour, pour des raisons tout simplement personnelles, que la vie pratique à New York,
oui,
n'est pas très facile. Et puis, ça coûte cher. Et puis, bon, la vie était compliquée. Quoi.
La vie matérielle
était compliquée parce que j'enseignais donc l'analyse numérique à Queens. Je faisais de la recherche dans Manhattan et j'habitais tout là-haut auprès de Harlem. Donc, c'était un gigantesque triangle.
Oui.
Donc je parcourais les trois côtés chaque jour et ça me fatiguait beaucoup.
Voilà. Donc au bout d'un an, vous êtes revenu.
Voilà.
Et là, on vous propose...
Alors ça correspond à l'époque où la décision avait été prise de décentraliser l'école normale supérieure de Saint-Cloud et d'en construire une toute nouvelle à Lyon.
À Lyon.
Et donc on m'a proposé, c'était en 1988, on m'a proposé de venir travailler dans le nouveau laboratoire de mathématiques de cette école qui, à l'époque, était... essentiellement vide, hein. Il y avait trois ou quatre collègues qui étaient là. Ça a été une aventure exceptionnelle d'arriver dans un endroit où tout était à faire, avec un petit nombre de collègues bien choisis. Et puis ensemble, on a construit un département. C'est-à-dire qu'au fil des années, on a essayé de recruter des jeunes de talent, d'essayer de construire un laboratoire avec des thématiques de recherche cohérentes. Et ma foi...
Et vous êtes toujours resté au même endroit,
voilà,
à la même maison.
Voilà, je suis assez satisfait du résultat, pour dire la vérité.
Et vous n'en avez pas eu assez, à un moment donné, de travailler, de faire la recherche? Parce que tout ça, à chaque fois, ça prend toujours du temps, hein.
Alors,
c'est des recherches sur le long terme.
En avoir assez de faire des mathématiques, la réponse est non. J'en ai toujours envie, et de plus en plus. Le problème, c'est que bien sûr, au fil des années, les responsabilités s'accumulent. On a de plus en plus de choses variées à faire. Quand j'étais débutant, je devais faire des mathématiques pour moi, et c'est tout. Et puis après, j'ai dû faire un peu d'administration, et puis un peu plus d'administration. Et puis après, j'ai eu des étudiants, ce qui était une chose qui est probablement la chose, à mon avis, la plus intéressante
dans
la carrière. Et les étudiants, c'est passionnant, mais c'est aussi un travail important. Et puis après, j'ai eu d'autres responsabilités, comme par exemple, je suis rédacteur en chef d'une revue.
Qui s'appelle ?
Qui s'appelle Les Publications Mathématiques de l'IHES, dont on parlait tout à l'heure.
Oui.
Et donc cette revue me donne... beaucoup de travail, et j'en suis très, très content, mais ça veut dire que je reçois des articles soumis par des auteurs aux quatre coins de la planète. Je dois les recevoir, je dois jeter un coup d'œil, je dois les envoyer à des experts, je dois recueillir l'opinion des experts, je dois faire des suggestions aux auteurs pour améliorer, et finalement, on doit le publier, vérifier qu'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe et des choses comme ça. Donc c'est un travail très prenant.
Ouais, qui vous prend du temps.
Mais qui est assez différent de celui de la recherche elle-même. Mais... Voilà, donc il y a beaucoup de formes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'aimerais avoir plus que 24 heures par jour. Quoi.
Et tout au long de votre carrière, vous avez toujours enseigné, ou pratiquement tout le temps?
Oui et non. Alors, j'ai la chance d'être directeur de recherche au CNRS, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'enseigner.
Mais vous enseignez quand même, un peu.
Alors, j'enseigne un peu. Et je pense que je ne suis jamais resté une année sans enseigner. Alors, bien sûr, j'enseigne moins qu'un professeur normal.
Vous savez. Parce qu'en étant directeur de recherche, vous avez donc le droit de ne pas enseigner, enfin, ou alors, en tout cas, oui. Sur un certain temps. Vous pouvez choisir les cours que vous voulez faire. C'est assez confortable.
Tout à fait, c'est une situation extrêmement confortable. Alors évidemment, en plus je travaille dans une école normale supérieure, donc les étudiants arrivent ayant déjà 2 années d'études supérieures derrière eux. Donc là où je suis, il n'y a pas de cours de première année. Donc moi, les cours que je peux être amené à pratiquer sont presque toujours au niveau de ce qu'on appelait jadis le DEA, qu'on appelle maintenant le M2, ou bien au niveau de la licence. Voilà. Donc j'essaye de garder un contact avec l'enseignement parce que j'estime que c'est important, mais il est vrai que j'enseigne moins que mes collègues qui sont professeurs.
Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans le fait d'enseigner? C'est garder un pied avec la jeunesse?
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est bien sûr le contact avec les jeunes, qui est, je crois, est particulièrement important en mathématiques.
Pourquoi plus en mathématiques que dans une autre matière?
Je pense que c'est un fait objectif. Alors, je ne sais pas si on peut...
Parce que ça évolue tout le temps, parce qu'on fait tout le temps de nouvelles découvertes, parce que...
Mais ça, on pourrait dire la même chose de beaucoup de toutes les sciences.
Mais oui, voilà.
Mais il se trouve que, pour une raison que je ne m'explique pas, je ne sais pas si quelqu'un l'explique, il se trouve que les mathématiciens sont plus productifs quand ils sont très jeunes. Alors que peut-être que dans d'autres sciences, c'est la maturité qui l'emporte. Alors, les mathématiciens, lorsqu'ils sont jeunes, sont productifs, actifs, et lorsqu'ils sont plus vieux, ils ont un autre rôle. C'est d'encourager les jeunes à être productifs. Donc,
c'est de passer le relais.
C'est de passer le relais, tout à fait. Voilà pourquoi je pense que l'enseignement est très important. Et puis, c'est aussi une manière d'apprendre des choses. Par exemple, je viens de m'engager à faire un cours de M2 l'année prochaine sur un sujet que je ne maîtrise pas encore.
À chaque fois, vous vous lancez toujours sur des sujets que vous ne connaissez pas au départ. Ou alors, on vous pousse. Hein. Si ce n'est
oui,
pas vous directement,
peut-être...
c'est votre parrain.
Mais en l'occurrence, c'est un peu mon travail. Hein. Donc, mon travail, oui. Ça consiste à apprendre des choses que je ne connais pas, bien sûr. Donc, l'année prochaine, je me suis engagé à enseigner sur un sujet nouveau pour moi. J'espère en tirer de grands profits personnels. Mais j'espère aussi que les étudiants en tireront du profit.
Vous vous intéressiez au système dynamique. C'était vraiment votre grande passion. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce thème-là, parce que c'est quand même un thème large, qui vous intéresserait plus qu'autre chose actuellement? Est-ce qu'il y aurait voilà, quelque chose qui vous attirerait plus là?
Bon, ce qui m'intéresse précisément actuellement, c'est des aspects topologiques. Alors je vais essayer d'expliquer. Si vous imaginez par exemple un liquide qui se déplace, et si vous avez une petite particule qui flotte dans le liquide, elle va décrire une courbe. Et il peut arriver parfois que cette courbe se referme. Vous avez une espèce de tourbillon. Et ce tourbillon, lorsqu'il va se refermer, il va faire un nœud. Il va faire une courbe qui peut, dans l'espace, se nouer.
Décrire une
courbe fermée. D'accord. Qui peut être un nœud. Et des nœuds, il y en a beaucoup. Et les mathématiciens s'intéressent depuis longtemps à la description de tous les nœuds possibles. On essaye de les comprendre, on essaye d'en faire des listes. Il y a des livres dans lesquels il y a des dictionnaires avec tous les nœuds possibles. On essaye d'en faire la liste. Et on essaye de comprendre tous les nœuds possibles. Alors, il y a une longue histoire, je peux vous expliquer d'où ça vient.
Mais oui, dites-nous tout, parce que c'est quand même assez curieux. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est quand même assez curieux. Peut-être
voilà.
Que ça paraît commun pour beaucoup
si vous voulez,
des auditeurs.
Mais... Alors, donc, je vais ouvrir une parenthèse. Donc, l'histoire, ça date du milieu du 19e siècle, où un physicien ou deux physiciens avaient étudié les mouvements des ronds de fumée de cigares, les ronds de fumée qui se déplacent dans l'atmosphère. Et ils avaient remarqué que ces ronds de fumée étaient extrêmement stables. C'est-à-dire qu'ils pouvaient éventuellement se réfléchir contre un mur. Ils ont fait des expériences de physique étonnantes où quelqu'un lance un rond de fumée de cigare dans une pièce, le rond se promène, va contre le mur, se réfléchit contre le mur, c'est tout à fait étonnant.
Il ne se déforme pas, en fait.
Ça ne déforme pas. Mm-hmm. Et donc, c'est cette stabilité des tourbillons, des ronds de fumée, qui avait étonné ces physiciens. Et le grand physicien Kelvin avait pensé que peut-être ça pourrait être l'explication des atomes. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était qu'un atome, on ne connaissait pas la théorie atomique. Et il avait pensé que peut-être qu'au niveau microscopique, il y aurait des petits tourbillons qui expliqueraient les atomes. Et l'atome serait de l'oxygène ou du carbone ou je ne sais quoi, suivant le nœud formé par ce tourbillon. Et donc, il s'est dit, je vais essayer de comprendre tous les nœuds possibles dans l'espoir de mettre ça en rapport avec les éléments chimiques.
De l'explication.
Alors ça, c'était complètement fou et c'était faux. Et ça n'a mené à rien. Mais ça a mené quand même à une théorie mathématique, topologique, qui essaye de comprendre comment sont faits les nœuds. Et cette théorie est extrêmement florissante aujourd'hui. Et elle représente un bon exemple, je pense, dans l'explication historique du développement des mathématiques, parce que c'est un exemple d'un échec pour la physique. Mais ça vient de la physique, mais c'est un succès pour les maths.
Est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans la vie de tous les jours, une fois qu'on aura fait ces découvertes?
J'en sais rien, peut-être. C'est pas ma motivation première.
Oui, je sais que c'est pas votre motivation première, vous intéresser.
Peut-être un jour. Voilà, donc le genre de problème qui m'intéresse aujourd'hui est de prendre des systèmes dynamiques dont certaines particules décrivent des trajectoires. Et puis, parfois, elles font des nœuds. Et je me dis, tiens, est-ce qu'elle peut faire un nœud de trèfle, ou est-ce qu'elle peut faire un nœud de huit, ou est-ce qu'elle peut faire un nœud de vache, ou est-ce qu'elle peut faire ce genre de choses. Voilà.
On va évoquer pendant les deux dernières minutes de notre habit vert votre entrée à l'académie. Pour vous, apparemment, c'était une surprise. Mmh. Déjà, quand vous êtes entré en tant que correspondant, et même après, quand vous êtes devenu membre à part entière, donc académicien des sciences, à chaque fois, vous l'avez appris comme ça, en fait. Une première fois, vous n'étiez pas au courant. Une seconde fois, c'est votre directeur au CNRS qui vous l'a appris.
Mmh. Pas au CNRS, à l'ENS.
À l'ENS, mais, pardon. Voilà.
Oui, j'ai été extrêmement surpris et très, très flatté, bien sûr.
Quand on vous a nommé correspondant, vous avez fait la découverte qu'en fait, on parlait de vous à l'Académie.
Voilà, pour dire la vérité, je n'avais pas une connaissance extrêmement précise de l'Académie et de son fonctionnement. Et lorsqu'on m'a appris que j'étais correspondant à l'Académie, c'était un mot qui n'avait pas grand sens pour moi. Je connaissais bien sûr l'Académie, je connaissais bien sûr ces gens prestigieux, mais j'avais jamais pensé qu'un jour je pourrais en faire partie.
Et puis après, quand vous êtes devenu, donc en 2004, en novembre 2004, membre à part entière de l'Académie, pareil, donc vous aviez en tant que correspondant une liste, vous aviez des comptes rendus, vous aviez des informations qui circulaient de l'Académie des sciences. Vous aviez donc vu votre nom parmi tous les autres noms qui pouvaient...
Voilà, mais c'est à peu près la seule information que j'avais. Mais
voilà.
C'était également une surprise et puis encore une fois un grand honneur.
Vous entretenez des liens avec les académiciens des sciences. Est-ce que c'est une manière de pouvoir échanger avec même peut-être d'autres sections? Parce que donc il y a les sections des mathématiques, mais aussi d'autres sections.
Alors là, je suis donc débutant dans ce travail. Je l'espère. Pour l'instant, je commence à avoir des rapports avec quelques comités de réflexion. Par exemple, je viens d'accepter de faire partie du comité de réflexion sur l'histoire des sciences, qui est assez pluridisciplinaire. Il y a des physiciens, des chimistes. Voilà une chose qui m'intéresse, par exemple. J'ai toujours été très intéressé par l'histoire des sciences. Donc, je suis très fier de pouvoir participer à ce genre de comité où je vais rencontrer des gens différents de mon cadre habituel, qui sont pas mathématiciens, par exemple.
Et je suppose que les personnes qui font partie de la section des mathématiques à l'Académie des sciences, ce sont des personnes que vous connaissiez avant, parce que vous êtes quand même un petit nombre.
Oui, bien sûr.
Donc ce sont des noms que vous connaissiez.
Presque tous ou tous. Oui, bien sûr.
Donc finalement, c'est l'occasion de resserrer un peu la famille des mathématiciens.
On peut le dire comme ça, oui, bien sûr.
Eh bien, Étienne Gisse, merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Et puis, on vous souhaite bon vent et bonne recherche sur vos nœuds.
Merci.
Et puis, à une prochaine fois, je l'espère. Merci beaucoup. Et merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Au revoir.